France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Nous passons nos journées à prendre des décisions sans même forcément nous en rendre compte. Partant de ce constat, on se demande aujourd'hui ce que disent les neurosciences de la fabrique de nos choix. Le cerveau est sans doute la machine à décider la plus complexe qui soit, mais la question du choix, avant de préoccuper les neuroscientifiques, a longtemps été un souci pour les philosophes. Pourquoi cette question de la prise de décision est-elle aussi cruciale dans nos vies? Que sait-on des mécanismes par lesquels nous prenons une décision, qui conduit à une action issue d'un choix réalisé parmi plusieurs possibilités? Enfin, des troubles pathologiques aux nouveaux outils numériques, qu'est-ce qui peut affecter ou orienter nos prises de décision? Voilà pour une heure notre menu neuroscientifique de choix. Le cerveau, une chambre à choix. C'est un titre un peu hommage à Astérix et les Arvernes et en même temps à Virginia Woolf, parce qu'on est sur France Culture, la grande autrice du courant de conscience. Et ça va nous permettre d'ouvrir cette émission où il va être question de prise de décision, de neurosciences et nécessairement un peu de conscience. Et pour nous guider dans cette aventure quotidienne de la prise de décision du point de vue des neurosciences, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Sergent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Cité et au CNRS. Et nous sommes également en ligne avec Mehdi Kamassi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'ISIR, à Sorbonne Université. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver une sélection d'articles et de liens vers les études qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @ScienceCQFD. Alors avant de nous plonger dans l'étude de la prise de décision par les neurosciences, j'aimerais qu'on fasse rapidement un peu d'histoire des savoirs ensemble pour comprendre l'importance que revêt cette question du choix, de la prise de décision. Mehdi Kamassi, je le disais à l'instant, si on doit résumer à très gros traits les questions philosophiques qui se sont posées autour de la notion de prise de décision, quelle pourrait-elle être ?
Ben en fait, déjà dans l'Antiquité, les philosophes grecs comme Aristote se sont posé des questions d'éthique. Quel plaisir cherchons-nous par nos décisions? Et ne devrions-nous pas distinguer le plaisir, qui est quelque chose de momentané, qui dure pas forcément longtemps, du bonheur, mais aussi agir de façon vertueuse, avec sagesse, en prenant en compte aussi les conséquences de nos décisions sur les autres. Mais au fond, à partir de ça, on peut retenir l'importance, en tout cas, de la notion de valeur subjective. C'est-à-dire qu'on s'attend à un certain plaisir et c'est pas le même plaisir pour tout le monde. Donc, ça va nous donner une proportion plus ou moins forte de prendre une décision. Et ensuite, toujours dans la philosophie, beaucoup plus récemment, on peut s'intéresser à Pascal, qui ensuite a introduit la notion de probabilité. Je peux éprouver beaucoup de plaisir à gagner une somme d'argent, un jeu d'argent, par exemple 1 million d'euros, mais ma décision de jouer ou pas doit dépendre aussi de la probabilité. Si j'ai très très peu de chances de gagner, en fait, ça vaut pas le coup de le faire. Et donc ça a amené à des théories en économie de la prise de décision, avec cette notion d'utilité, où l'utilité pour un individu d'agir en vue d'une certaine fin, l'utilité de cette fin, en fait, doit être une prise en compte de la valeur subjective et de la probabilité.
Cette théorie économique, on en parlera tout à l'heure, c'est l'économie comportementale, notamment, Claire Sergent, cette question de la prise de décision, elle a débordé dans le champ d'autres grandes disciplines, d'autres grands courants de recherche, comme la psychologie scientifique au XXe siècle, avec des théories comme le comportementalisme. On pense tout de suite à Pavlov, à cette expérience de conditionnement du chien de Pavlov. Alors expliquez-nous un petit peu comment cette théorie-là a posé d'une autre façon la question de la prise de décision.
Oui, alors le comportementalisme s'intéresse directement à la relation entre un stimulus et la réponse. Et je dirais, on se place dans un mouvement où on essaye d'évacuer l'idée qu'il y a un esprit entre les deux. On essaye de comprendre les lois qui lient le stimulus et la réponse. Et un exemple de grand succès de cette approche, c'est effectivement les études de Pavlov que beaucoup de gens connaissent. Donc Pavlov s'est intéressé à conditionner un chien en utilisant d'abord une réponse instinctive qui est que lorsqu'on présente de la nourriture au chien, il va saliver et il va créer une association entre le bruit d'une clochette qu'il va faire retentir avant de servir le chien et le plaisir du coup de recevoir son repas. Et il va s'apercevoir que au bout d'un moment, la salivation du chien ne réagit plus à la gamelle qui lui est présentée, mais réagit déjà au son de la clochette. Et je ne sais pas vous, mais je pense que nous aussi, on a déjà ressenti ce genre de...
J'entends beaucoup de clochettes tous les jours.
De réaction, voilà. Passer à côté d'une boulangerie va peut-être nous faire saliver, etc.
Et rôtisserie aussi,
voilà,
ça marche.
Voilà, ouais. Des associations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement.
Mehdi Kamassi, si on poursuit dans cette histoire un petit peu des savoirs, donc on parlait à l'instant du comportementalisme, en réaction à ce comportementalisme s'est développée une autre théorie, le cognitivisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire concernant cette prise de décision? Et puis après, bien sûr, on abordera la question de l'économie comportementale pardon, et celle des neurosciences.
Bah, l'idée du cognitivisme, c'est que nos comportements et nos décisions ne sont pas uniquement guidés par des associations que nous faisons par apprentissage environnement, mais aussi par des représentations mentales que nous construisons petit à petit des régularités de l'environnement. Par exemple, quand je me déplace dans l'espace, je peux mémoriser une partie de la carte, la configuration de cet espace. Et donc, je ne fais pas que associer un stimulus, par exemple, je perçois un immeuble avec le fait de tourner mon corps pour aller dans certaines rues, mais je peux aussi fermer les yeux et penser à la carte que j'ai mémorisée, et me dire, j'ai envie d'aller à tel endroit, et je peux utiliser cette carte pour planifier une série de décisions qui vont m'amener à bon port. Et en fait, il s'avère, dans l'état des recherches aujourd'hui, que nous, êtres vivants, mammifères, nous sommes capables de faire les deux. Et nous alternons entre ces deux modes de décision.
Et là, on aboutit à une autre question que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est pour poser un peu ce décor théorique autour de cette vaste notion qu'est la prise de décision, Claire Sergent, cette idée d'économie comportementale aussi qui a été développée par Daniel Kahneman et Amos Tversky. Quelle conception là aussi développée, mais plutôt du côté de l'économie cette fois?
Alors, l'économie comportementale ou l'architecture de la décision se base sur ce qu'a évoqué Mehdi de tout un raisonnement sur le choix rationnel. Quand on essaye de poser les bases de comment faire un choix de manière rationnelle, il faut prendre en compte la valeur des options qui sont devant nous et la probabilité de réussite de ces options. Et un autre élément qui est très important dans ces choix, ce sont les a priori qu'on va avoir sur ces valeurs attendues et sur la probabilité de réussite ou la probabilité d'avoir une récompense suite à ce choix. Et beaucoup des manipulations qui sont mises en œuvre maintenant de manière quotidienne, qu'on va appeler nudge parfois, vont jouer sur ces a priori implicites ou certains biais de l'architecture du choix humain, par exemple le biais de confirmation.
Mehdi Kamassi, c'est ça la grande nouveauté de cette théorie de l'économie comportementale qui a valu à Daniel Kahneman le prix Nobel d'économie en 2002, c'est cette idée selon laquelle finalement la plupart de nos choix sont le fruit de biais, et que finalement tout n'est pas si rationnel que ça dans nos prises de décision.
Absolument. Donc, ils ont montré qu'on avait des biais cognitifs. Alors, biais au sens de déviation par rapport à la rationalité théorique postulée par la théorie économique classique. Ça ne veut pas dire que ce sont des biais en soi. En fait, il y a des raisons de penser qu'il y a un intérêt écologique à avoir ces biais. Donc, par exemple, on surestime les événements rares. S'il y a quelque chose qui a une probabilité très faible, par exemple, gagner au loto, la probabilité est très, très faible, mais comme c'est très saillant, la valeur subjective de gagner au loto est très, très forte, on a quand même envie d'y aller. Et donc ces biais nous font prendre des décisions qui paraissent irrationnelles au sens de la théorie économique.
Bon, merci à tous les deux d'avoir posé ce décor et de vous être forcés un petit peu à sortir de votre champ d'expertise que sont les neurosciences. On y vient, Claire Sergent, à cette question de la prise de décision du point de vue des neurosciences. Quel sens a pour vous en tant que neuroscientifique la prise de décision et dans quelle grande catégorie de fonctions cérébrales elle entre?
Alors la prise de décision semble reposer sur trois grands axes qu'on peut en gros localiser dans le cerveau. Donc il y a ce qu'on appelle le contrôle cognitif, c'est-à-dire une fois que j'ai décidé d'une grande catégorie de choses. Par exemple, j'ai décidé que j'allais faire un gâteau. À ce moment-là, il y a tout un tas d'opérations complexes à faire dans un certain ordre qui vont se mettre en place. Et ça, c'est plutôt la partie latérale du lobe frontal. Lobe frontal qui, par ailleurs, est particulièrement développé chez l'humain par rapport aux autres primates. Donc c'est en gros la partie du cortex qui est vers nos tempes et vers notre front. Ça, c'est le contrôle cognitif. Et on va distinguer ça d'un autre axe qui est motivationnel, qui est plus la partie où les deux hémisphères se rencontrent. Et on peut s'imaginer que c'est derrière le centre de notre front, là. Et là, il va y avoir des parties qui s'intéresse plus particulièrement à cette fameuse valeur dont on parlait. Et ce qui est joli, c'est qu'on va voir expérimentalement que ces régions encodent très finement la valeur subjective d'un choix par rapport à un autre pour chaque individu.
C'est-à-dire qu'il y a une valeur émotionnelle spécifique à chacun des choix qu'on pose ?
Alors, émotionnel, là, ça va être notre troisième axe. Mais bien sûr, il y a un lien, et il y a un lien entre ces trois fonctions et le troisième axe plus émotionnel. Donc, ça comprend des parties, bien sûr, du lobe frontal, donc du cortex, vraiment la partie du cerveau qu'on connaît le mieux, mais aussi des structures sous-corticales, et notamment les ganglions de la base, et aussi des structures qu'on appelle limbiques, donc en lien avec les émotions, comme l'amygdale.
Mais dit Kamassi, je viens de prendre mon stylo et j'ai pas vraiment fait attention au fait que je prenais mon stylo. Alors j'aimerais comprendre, parce qu'on parlait de faire un gâteau, là j'ai pris mon stylo de façon un peu inconsciente. On peut penser aussi à d'autres choix qui sont plus engageants ou en tout cas plus lourds de sens, comme un vote à une élection par exemple. Quelles sont les grandes catégories, familles de décisions qu'on recense aujourd'hui du point de vue des neurosciences ?
Bon, il y a en fait énormément de décisions qui sont prises par notre système nerveux dont on n'a pas du tout conscience. Même une décision perceptive. Quand un bâton est posé à la surface de l'eau, on peut le voir soit tout aligné ou soit comme s'il avait l'air cassé. Et ce sont deux percepts contradictoires. On peut pas les voir en même temps. Il y a aussi l'illusion du cube de Necker qui montre ça. Donc quelque part, même sans y réfléchir, notre cerveau prend une décision de percevoir le monde d'une façon par une autre. Donc ça, c'est les décisions perceptives. Mais on a aussi plein de décisions donc ancrées sur des choix économiques, comme on l'a mentionné avant. On estime explicitement une valeur subjective et on décide en fonction de ce but qu'on souhaite atteindre. Il y a, comme le mentionnait Claire Sergent, le contrôle cognitif qui implique vraiment de planifier, de délibérer une suite d'actions pour atteindre un but, parfois à long terme. Je décide à la suite de mon master que j'ai envie de continuer à faire une thèse, un doctorat, ça va me prendre 3 ans et le résultat, le diplôme arrivera donc au bout de 3 ans. Et donc ça va être long, mais c'est parce que je souhaite atteindre cet objectif. Et en même temps, et je pense que c'est une des grandes leçons de ces dernières années en psychologie expérimentale, en neurosciences cognitives, c'est qu'en fait une grande part de nos autres décisions sont complètement automatiques. Là, vous avez attrapé ce stylo, vous y avez même pas réfléchi, et on se rend compte que peut-être plus de 80% de nos décisions quotidiennes sont prises de façon automatique.
Ça veut dire quoi, Claire Sergent ? Ça veut dire qu'on est des robots sans le savoir et que chacune de nos décisions finalement ne nous appartient pas et qu'on n'a pas un libre arbitre aussi grand que ça ?
C'est intéressant, on peut voir ça comme ça, ou on peut voir aussi que nous sommes une machine très très efficace. Donc pour des choix qui nous engagent à plus long terme, comme celui effectivement de faire un master, ce sont des choix très clairement délibératifs où il va y avoir un engagement conscient et peser différentes options de manière explicite, des choix aussi minimes que attraper son stylo comme ça, c'est intéressant que vous en parliez parce que ça veut dire, et ça les études le confirment, que finalement le cortex prémoteur et le cortex moteur, ceux qui sont tout au bout du choix, dont on pourrait penser qu'ils sont au bout du choix, ce sont juste les exécutants, en fait ils sont tout le temps en train de proposer.
De traiter une information.
Voilà, recevoir des informations visuelles et autres, et puis proposer des choix possibles. Donc c'est au lieu de le voir de manière linéaire entre le grand chef au-dessus qui serait le cortex frontal qui irait dire au petit exécutant cortex moteur, prémoteur, puis moteur, allez vas-y, saisis cet objet, c'est plutôt ben chacun déroule ses capacités et puis on essaye de se mettre ensemble à un moment. Et effectivement, une foule, c'est marrant, Mehdi Kamassi disait peut-être 90% des représentations qui surgissent dans ces choix peut-être sont totalement inconscientes, mais il y en a une petite partie qui est consciente et c'est peut-être sans doute la plus importante.
La plus importante, Mehdi Kamassi, je vais vous poser une question volontiers provocatrice. Vous savez que les scientifiques sont les bienvenus à cette table, mais pourquoi au fond s'intéresser à cette question du choix et de la prise de décision du point de vue neuroscientifique une fois qu'on a fait voilà cette catégorisation, cette présentation de tous les choix qu'on a devant nous? Quel intérêt il y a à aller essayer de comprendre le mystère qui se cache derrière chacune de ces catégories de choix?
Bon, pour moi, il y a pas mal d'intérêts différents. Il y a un intérêt fondamental, comprendre qui nous sommes, quels sont les mécanismes biologiques qui sous-tendent nos décisions. Ça peut avoir un intérêt clinique. Il y a des troubles de la prise de décision dans un certain nombre de pathologies, de maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, ou des troubles psychiatriques. Donc, en fait, bien comprendre les mécanismes dans le cerveau sain permet aussi de comprendre comment ils sont altérés dans le cas pathologique et espérer mieux les soigner. Et puis ensuite, pour moi, il y a des grandes questions éthiques. Si on a envie de penser une société qui nous permette de mieux vivre ensemble, de prendre des décisions où on n'impacte pas négativement les autres, on doit réfléchir à comment aménager la société pour ne pas trop nous faire basculer dans des automatismes, peut-être dans des décisions égoïstes. Donc, ça peut alimenter la réflexion sociétale.
Claire Sargent, je vous pose la même question, même si Mehdi Kamassi a quand même très bien résumé les
oui,
choses.
Oui, tout à fait. Juste pour rajouter la question des grands enjeux actuels sur le changement climatique, par exemple, ça pose un défi très intéressant et un peu vertigineux sur le rôle que pourrait jouer une compréhension des décisions humaines dans ce genre de défi et comment aider l'humain dans ce genre de défi où le résultat des choix est lointain, incertain. Donc typiquement des situations où ce fameux système qui nous permet de simuler le résultat de nos actions et qui propulse notre décision est mis en défaut par le caractère lointain, incertain, peut-être mal informé, etc. Donc là, il y a un enjeu aussi très très clair.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit notre discussion autour de la prise de décision du point de vue des neurosciences avec Claire Sargent et Mehdi Kamassi et cette question qui occupe beaucoup la recherche en neurosciences aujourd'hui concernant les mécanismes cérébraux à l'œuvre dans la prise de décision. Pour introduire cette vaste question, je vous propose d'écouter une archive, cette vaste question de la neurophysiologie de la prise de décision. Cette archive est extraite de l'émission Corps vivant intitulée L'ordinateur cérébral, la décision, diffusée sur Antenne 2 en 1987.
En une ou deux secondes, le cerveau du pilote doit prendre une décision. Rappelons les données de son choix. Agir avec les mains pour décoller, avec les pieds pour freiner. Toutes les informations ont abouti à un ensemble de cellules quelque part dans le cerveau. Où exactement, on ne le sait pas. Voici l'instant qui précède la prise de décision. Certaines de ces cellules sont hyperactives. On pense que cette zone, située au sommet du crâne, bouillonne d'activité avant qu'un choix soit effectué. Que s'y passe-t-il donc ? Des millions de cellules sont soudain concernées. En fait, chaque cellule prend sans arrêt ses propres décisions, à l'échelon le plus petit, lorsqu'elle choisit de déclencher une impulsion vers une autre cellule ou de ne point le faire. Au centre, cette cellule reçoit probablement des milliers de messages en provenance d'autres cellules par les longues branches qui irradient de chacune d'elles. À l'échelle des cellules nerveuses, la prise de décision est vraisemblablement du type d'un vote pour un référendum. C'est oui ou c'est non, tout simplement.
C'est oui ou c'est non, tout simplement. C'est pas si simple que ça, Claire Sergent, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Et puis voilà, ça nous permet d'introduire cette question de la mécanique de la prise de décision du point de vue neurophysiologique.
Oui, c'est très intéressant. Il y a un des aspects qui a retenu mon attention, c'est en une ou deux secondes, le pilote doit prendre sa décision. Alors ça, c'est typiquement ce qui peut passionner les chercheurs, le temps de réponse. Et parfois, c'est beaucoup moins, hein, les prises de décision. Et quand on réfléchit à tout le parcours que doit faire l'influx nerveux pour aller actionner les muscles de la jambe, ça veut dire que la décision a été prise en... Voilà, moins d'une demi-seconde très souvent. Et on se rend compte que beaucoup de prises de décision, parce que donc moi, ma spécialité, c'est l'association entre prise de conscience et prise de décision. On se rend compte que certaines réactions motrices ont lieu avant que les ondes cérébrales liées à la prise de conscience d'un stimulus visuel ou autre n'apparaissent.
Alors là, ça me donne envie de parler de Benjamin Libette, de ses expériences qui justement montraient qu'il y avait un signal dans le cerveau d'une prise de décision, mais qui n'était pas encore conscient. Et alors, décrivez-nous ça mieux que je ne le fais, parce que là, c'est un peu grossier. Oui. Mais comment on peut rattacher ça à ces expériences de Benjamin Libette ?
Alors donc, Benjamin Libette a fait des expériences classiques. C'était un neurochirurgien et parfois il opérait dans le cortex moteur, donc celui qui est juste avant la contraction musculaire, qui va déclencher vraiment une contraction. Et au moment des opérations, très souvent, on réveille le patient et donc on peut faire des expériences avec le patient. L'intérêt clinique, c'est d'essayer de pas toucher des zones qui vont être très très invalidantes, mais il y a aussi un intérêt scientifique. Et Benjamin Libette a demandé à ses patients d'effectuer un choix libre. Il avait envie de s'intéresser au libre arbitre et il se disait bon, comment je peux le mettre en œuvre expérimentalement? Bon, je vais demander aux gens de bouger quand ils le souhaitent, quand leur volonté leur dicte. OK. Et en même temps, il enregistrait le cortex moteur, qui a des fluctuations permanentes, et il demandait au sujet de regarder une horloge et de bien noter, pour le rapporter plus tard au neurochirurgien, à quelle heure précisément ils avaient pris leur décision de bouger librement. Et l'observation qui a fait par la suite couler beaucoup d'encre et qui excite encore des débats actuellement, c'est que Benjamin Libette enregistre dans le cortex moteur des fluctuations qui vont vers la contraction musculaire bien avant, donc à l'échelle de la seconde, l'heure à laquelle les gens disent qu'ils ont pris cette décision. Donc encore une fois, ça va à l'encontre de cette visualisation un peu linéaire de la décision. D'abord on décide et puis ensuite on envoie au cortex moteur. Alors, certains ont dit, OK,
on
c'est fini,
c'est
nous sommes... voilà, c'est le cortex moteur qui décide. C'est peut-être pas si simple parce que d'autres expériences suggèrent que, en fait... Cette mise en œuvre expérimentale, elle est un peu spéciale. C'est rare que sans motivation autre, on ait envie de bouger,
à part attraper un conditionnement, d'une certaine façon.
Voilà, c'est ça. Donc, on a envie de faire plaisir aux neurochirurgiens, donc on va quand même bouger. Et donc, ce que suggèrent des études un peu plus récentes, c'est que dans ce genre de situation un peu spéciale, ben, les gens vont se mettre à écouter entre guillemets le bruit qui est dans leur cortex moteur, et puis quand ce bruit va tendre vers le mouvement, eh bien ils vont se dire ah bah j'ai décidé,
c'est le moment,
voilà. Et donc rétrospectivement décider, mais ça nous amène à cette notion que il s'agit de boucles. Il n'y a pas le chef qui va décider, etc., mais il y a plutôt un dialogue entre des possibilités, des options et des motivations qui vont aboutir à effectivement une décision.
Médicamassi, on parle de neurochirurgie, on va parler de neurophysiologie. Aujourd'hui, de quels moyens on dispose-t-on pour observer cette prise de décision? Quelles structures cérébrales, quelles aires cérébrales sont particulièrement étudiées par les neuroscientifiques pour comprendre ce qui motive un choix?
On a différentes techniques pour mesurer l'activité nerveuse dans différentes aires, donc les aires qu'a mentionné déjà Claire, on pourra en citer d'autres, mais on a des techniques qu'on appelle invasives, où on doit mettre par exemple des électrodes dans le cerveau. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse à l'intérieur du cerveau, donc si vous avez des électrodes implantées, vous n'avez pas de douleur. Mais bon, chez l'humain, c'est très rare qu'on utilise ces techniques, on le fait uniquement par exemple chez les patients qui sont atteints d'épilepsie sévère, qu'on n'arrive pas à soigner par des médicaments. À ce moment-là, les patients peuvent rester à l'hôpital pendant plusieurs semaines et ils ont des électrodes implantées dans le cerveau pour pouvoir, en cas de crise, analyser l'activité et détecter où était le foyer de la crise épileptique. Donc ça les aide à ensuite être soignés. Mais sinon, la plupart du temps, chez l'humain, on utilise des techniques d'imagerie. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc on met, l'humain s'installe dans un scanner et on enregistre des images de cette activité cérébrale et puis on peut voir quelles sont les régularités des activités.
Claire Sergent, là on comprend donc qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs moyens d'observer cette prise de décision. Depuis quelques années, on a même la capacité d'activer ou d'inhiber certains neurones en particulier. Qu'est-ce que ça va nous permettre de comprendre ce type d'activation, d'inhibition pour du côté de la prise de décision?
Alors ça, activer, inhiber, c'est, dans le détail, c'est plutôt chez l'animal, chez le rongeur. Là, il y a plein de techniques qui permettent de manipuler, même au niveau du neurone, l'activité du neurone. Chez l'humain, c'est des activations, ça serait plutôt des études de lésions ou la stimulation magnétique transcrânienne qui va perturber le fonctionnement du nerf, mais de manière très transitoire. Ce que ces techniques permettent donc de voir le pendant, c'est-à-dire quand ça ne fonctionne pas, elles permettent d'établir la causalité du nerf dans une fonction. Si cet air est lésé et que tout à coup la personne est incapable de faire un choix, c'est donc que cet air joue un rôle important dans la mise en œuvre d'un choix.
Alors, Claire Sergent, en septembre 2025, la revue Nature publiait deux études issues d'un vaste travail de recherche conduit par un consortium international. La première étude proposait la toute première carte du cerveau d'une souris en action lors de la prise de décision. Il découle donc de cette étude qu'il n'y a pas forcément d'aire cérébrale uniquement dédiée à la prise de décision. Est-ce que, d'une certaine façon, ça entre en contradiction avec ce qu'on s'est dit jusqu'à présent et sur le rôle, par exemple, clé majeure du cortex préfrontal dans la prise de décision?
Alors, c'est intéressant. En tout cas, ça rentre pas en contradiction avec une notion de plus en plus établie que toutes les fonctions cérébrales fonctionnent en système plutôt qu'en module. Donc, bien sûr, il y a des aires dédiées qui ont une spécialisation, mais pour fonctionner, elles ont besoin de communiquer avec d'autres aires cérébrales.
Alors, si on devait faire justement à partir de ce genre de travail, une espèce d'état de l'art, une espèce de cartographie. C'est pas la même cartographie que celle qu'on vient de mentionner, mais une cartographie de ce qu'on sait de la prise de décision du point de vue de ces mécanismes neurophysiologiques. Quels seraient-ils et quelles sont les principales zones qui sont actives en même temps dans le cerveau quand on fait un choix?
Oui. Alors déjà, quand vous évoquez tout le cerveau qui est quasiment mis à contribution dans les choix, dans ces fameuses études, ce qui est intéressant, c'est que dans ces études, tout le cerveau est mis à contribution parce qu'il y a à la fois l'aspect sensoriel, le rongeur doit faire une décision sensorielle, il voit un stimulus et il doit le déplacer sur un écran. Ensuite, il y a l'aspect motivationnel, on y revient, et puis l'aspect contrôle moteur jusqu'à l'exécution motrice. Et ce qu'il y a sûrement au milieu, et ça c'est un des aspects que j'étudie dans ma recherche, c'est la prise de conscience du stimulus, ou non. On a évoqué le fait que parfois on pouvait aller jusqu'à l'action ou en tout cas influencer l'action par des stimuli non conscients. Et donc, ce que confirme cette étude, je le lirai aussi avec ce qu'on semble établir de plus en plus sur la prise de conscience déjà, c'est-à-dire que le traitement non conscient automatique semble être beaucoup plus local, tandis que la prise de conscience semble mettre en œuvre tout un réseau, donc orchestrer à la fois des aires sensorielles et des aires de plus haut niveau, notamment préfrontales. Mmh. Et donc dans des études plus récentes, non, pas plus récente que le fameux Nature, mais plus récente, l'aspect conscience. En fait, les chercheurs sont allés sur l'interaction entre prise de conscience et prise de décision. Et donc, récemment, dans mon équipe, on a mis en place des expériences dans lesquelles on manipule à la fois la prise de conscience du stimulus et le fait que les gens doivent faire une décision dessus ou non. Et on s'aperçoit que même lorsque les gens n'ont pas de décision à faire sur un stimulus, on voit certaines zones du cortex frontal et préfrontal qui s'activent. Donc, ça n'est pas que la décision, mais certaines zones se désactivent lorsqu'il n'y a pas de décision à faire, et celle-ci semble être plus en lien avec articuler cette prise de conscience avec une vraie décision.
Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant notre discussion et on va notamment se demander ce qui peut troubler nos prises de décision. Ce sera juste après ça. Of Decision par Osmundi dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure des mécanismes cérébraux qui nous permettent de prendre des décisions et nous en parlons avec Claire Sergent, professeure de neurosciences cognitives à l'université Paris-Cité et au CNRS, et Mehdi Kamassi, directeur de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Sorbonne Université. Alors, après avoir parlé de l'histoire de l'étude de la prise de décision par les neurosciences et des découvertes plus récentes concernant cette prise de décision, il est l'heure de poser la question des troubles qui peuvent les affecter. Et comme chaque jour, on va partir en reportage. Les prises de décision de notre cerveau sont en partie aléatoires, ce qui peut entraîner à l'occasion des comportements en partie irrationnels, mais qui ne sont pas sans intérêt quand l'humain fait face à des situations nouvelles et inconnues, et c'est le sujet de notre reportage. Bonjour Loïc Dutoit.
Bonjour Antoine.
Vous vous êtes rendu à l'École Normale Supérieure de Paris pour comprendre quels sont les mécanismes qui permettent à notre cerveau de s'adapter quand la décision à prendre n'est pas claire.
Oui, car notre cerveau est constamment confronté à ces dilemmes à l'issue incertaine et où il faut pourtant choisir. Ce peut être à l'isoloir au moment de voter ou lorsque vous attendez ce bus qui a du retard, dont vous ne savez pas s'il va finir par arriver et s'il faut l'attendre, ou au contraire partir parce qu'il n'arrivera peut-être jamais. Dans ce genre de contexte, l'activité cérébrale qui permet de prendre une décision ne suit pas une logique systémique. Elle fluctue toujours un peu, de sorte que la réponse du cerveau est en partie aléatoire. Ce caractère variable dans la prise de décision, il est important pour s'adapter plus rapidement à de nouvelles situations. C'est ce qu'a montré l'équipe de Valentin Viard, qui est directeur de recherche en neurosciences cognitives à l'INSERM et à l'École normale supérieure de Paris. Et pour le faire, ils ont implanté cette variabilité dans des réseaux de neurones artificiels, un certain type d'intelligence artificielle.
je vous présente à gauche et à droite de l'écran deux pots de billes dans lesquels vous voyez qu'il y a des billes colorées, du rouge au bleu. Et vous voyez que les deux pots contiennent les mêmes couleurs de billes, mais pas dans les mêmes proportions. Et au centre, je vous ai présenté un tirage de 5 billes qui a été tiré d'un des deux pots, mais vous ne savez pas lequel. Et donc, vous devez essayer de me dire de quel pot vous pensez que les billes que je vous affiche au centre, là, les 5 billes, ont été tirées. Donc, je vous le dis à l'avance, c'est un jeu dans lequel vous ne pouvez pas avoir tout le temps bon. Parce qu'en fait, ces 5 billes ne sont pas suffisantes pour vous donner toute l'information nécessaire pour deviner le pot dont elles ont été tirées.
J'imagine que c'est des questions de probabilité derrière.
Exactement, voilà, exactement. Et donc en fait, si on demande à une machine statistique parfaite de prendre la décision, bah, la machine sait que si elle répond par exemple dans ce cas-là le pot A, celui qui est à gauche de votre écran, bah, elle a 8 chances sur 10 d'être correcte. Et si elle choisit le pot B, elle a 2 chances sur 10 d'être correcte. Donc la machine choisirait toujours le pot A. Je ne sais pas ce que vous auriez choisi.
Bah, j'aurais choisi comme la machine, pour le coup. Je ne sais pas si ça me rassure, mais voilà. J'aurais choisi comme la machine parce que le pot A est rempli de davantage de billes rouges et voilà. Qu'on a 3 billes rouges au centre,
exact.
Alors que le pot B, il y a peu de billes rouges. Donc, voilà. J'aurais pensé que c'était moins probable. Mais après, effectivement, les deux cas semblent possibles.
Exactement. Et vous voyez, donc, ce jeu a l'air assez simple quand je vous le présente comme ça. Et donc, on peut regarder à quel point les humains sont proches de cet optimum statistique parfait de cet observateur artificiel optimal. Et ce qu'on voit, c'est que même dans des décisions aussi simples que ça, la performance de sujets humains est nettement en dessous de l'optimum statistique. Des sujets adultes ne sont pas rationnels et ne décident pas de façon optimale. Et donc, ça pose une question, la question de savoir d'où vient cette sous-optimalité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les gens dans un scanner et on les a testés dans ce type de jeu pour regarder d'où venaient les erreurs de décision. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces erreurs venaient d'une variabilité de l'activité cérébrale dans les régions bien précises, que là je vous montre en fait sur un schéma qui montre des coupes du cerveau en IRM, c'est-à-dire en imagerie par résonance magnétique.
Cette variabilité cérébrale, c'est une caractéristique inhérente de notre cerveau qui induit un aspect aléatoire dans la prise de décision. Face à la même situation, devant laquelle nous devrions prendre en théorie la même décision, la zone cérébrale qui s'active est chaque fois légèrement différente. Et c'est ce mécanisme qui est la source d'une majeure partie des erreurs dans le cas du jeu avec le pot de billes.
Quand on la regarde au sein d'une tâche précise, cette variabilité semble causer des erreurs. Donc on pourrait imaginer que cette variabilité est finalement une limite du cerveau, un problème. Et nous, ce qu'on s'est dit dans l'équipe, c'est qu'on s'est demandé est-ce que cette variabilité n'a que des inconvénients pour l'esprit humain ou est-ce qu'elle pourrait avoir des avantages ? Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est tourné vers l'intelligence artificielle.
Les systèmes d'intelligence artificielle n'ont pas cette variabilité dans leur processus de décision. Ça leur permet d'être plus performants en règle générale. Mais Valentin et son équipe se sont rendus compte que ce n'était pas toujours le cas. Lorsque l'intelligence artificielle doit s'adapter à de nouvelles conditions pour lesquelles elle n'a pas été entraînée, les modèles qui possèdent une part d'aléatoire dans leur processus de décision deviennent plus pertinents que ceux qui en sont dénués. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont notamment regardé comment les intelligences artificielles jouaient aux machines à sous.
C'est des jeux tout bêtes où, en laboratoire, le sujet, à chaque essai, a ce qu'on appelle un bandit manchot, c'est-à-dire une machine à sous avec deux bras. À chaque essai, on peut tirer un bras. Et donc, le but du jeu, c'est tout bête, comme au casino, c'est de deviner le bras qui donne le plus de récompenses pour essayer de le tirer le plus et de gagner un maximum d'argent. Bah, on peut faire un peu le même genre d'astuce avec ce type de jeu-là, c'est-à-dire qu'on peut entraîner les réseaux à jouer à ces bandits manchots quand un des deux bras est toujours meilleur que l'autre. Les réseaux de neurones, qu'ils soient dénués ou non de variabilité interne, ils sont tout à fait capables d'apprendre à réaliser ce type de jeu. Maintenant, on peut ensuite les tester dans une situation un peu différente où, au milieu d'un jeu, le bras qui rapportait le plus de récompenses devient tout d'un coup beaucoup moins bon que l'autre bras pour voir si les réseaux sont capables de s'adapter, de se rendre compte que finalement ce bras-là a plus l'air de marcher très bien, je vais essayer l'autre. Quelque chose de très très simple que les sujets humains sont capables de faire, mais même des rongeurs sont capables de faire également. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les réseaux sans variabilité interne, s'ils n'ont pas été entraînés directement dans des jeux qui ont ce genre de renversement qui demande une adaptation, vont être très mauvais à le faire. Vous voyez sur ce schéma, après le moment où les valeurs des deux bras se renversent, vous voyez que le réseau a énormément de mal à adapter. Il adapte son comportement que dans 20%, 30% des jeux dans lesquels il est testé. Alors que le réseau dans lequel on a rajouté une variabilité interne, donc là encore, une source d'aléas dans le fonctionnement du réseau, ce réseau qui a été entraîné dans des jeux sans aucun renversement est parfaitement capable de se renverser au bout de moins d'une dizaine d'essais. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est vraiment la variabilité de l'activité dans le réseau qui permet au réseau, de façon flexible, de sortir de ce qu'on appelle un état d'attracteur, c'est-à-dire que les réseaux, comme le cerveau humain, ont une tendance à, quand la situation est stable dans l'environnement, à converger vers un certain pattern d'activité qui reflète en fait notre compréhension de l'état du monde.
Chez l'humain, le niveau de variabilité interne du cerveau est une propriété qui dépend de chacun. Elle est un trait d'un individu. Et si elle devient trop grande ou au contraire trop faible, on suppose qu'elle pourrait être la source de certaines pathologies psychiatriques.
Le cerveau fonctionne un peu toujours dans un état un peu limite. C'est-à-dire qu'en moyenne, la variabilité qu'on observe va être probablement une variabilité qui optimise un peu le fonctionnement de notre esprit, le fonctionnement de notre esprit sous toutes les contraintes de notre cerveau. Donc s'il y en a plus, ça risque d'être un mal, et s'il y en a moins, ça risque aussi d'être un mal. Et donc ce qu'on a pu voir par exemple, c'est que dans certains états, comme des états qui ressemblent à des formes précoces de psychose, ce qu'on a fait dans une étude pharmacologique, on voit que cette variabilité augmente et qu'elle produit des décisions plus impulsives que la moyenne et moins précises, moins performantes.
Merci beaucoup Loïc Dutoit. Votre reportage et tous les précédents sont bien sûr à retrouver dans notre collection de podcasts La Science au Labo, à retrouver sur l'appli Radio France, mais aussi sur la page de La Science au Labo, sur le site de France Culture, franceculture.fr. Medicamassi, une petite réaction à ce reportage de Loïc Dutoit et à ce recours notamment à des systèmes d'intelligence artificielle pour éclairer cette prise de décision.
Oui, c'est quelque chose qui est fait depuis pas mal d'années. En fait, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent parfois être très différents de la façon dont les systèmes biologiques prennent des décisions. Et puis parfois, par la recherche en IA, on trouve des solutions à des problèmes qui fonctionnent bien et qui s'avèrent être des bons modèles de ce qui se passe dans le cerveau. Donc parfois, ça nous éclaire et ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Et cette idée d'introduire une variabilité dans les choix, bah, c'est quelque chose de très important. Ça a été montré pas mal d'années en IA, donc en intelligence artificielle, que si un système n'a pas assez de variabilité, il risque d'être coincé dans des options qui paraissent bonnes, mais qui sont finalement pas les meilleures solutions à un problème donné.
Claire Sergent, même question sur ce reportage et sur ce recours au système d'intelligence artificielle pour éclairer nos prises de décision à nous qui sommes faits de chair et d'os.
Oui, je pense que ça participe d'un dialogue très, très riche entre l'intelligence artificielle et les neurosciences. Et il est particulièrement bien orienté lorsqu'on parle de prise de décision parce qu'il y a moyen de formuler un idéal du choix rationnel, donc déjà d'un point de vue mathématique, et puis aussi voilà entraîner des réseaux à faire des choix. Et donc je pense que beaucoup de concepts sont passés de l'un à l'autre. Par exemple, le concept, enfin une des manières d'entraîner ces fameux réseaux, c'est d'effectuer un espèce de retour du reward, c'est-à-dire de la récompense. Donc le réseau donne une réponse et si c'est pas la réponse qu'on souhaite, bien il y a une sorte de punition et on va punir les connexions qui ont mené à cette réponse, et inversement la récompense va récompenser les connexions qui ont mené à cette réponse. Et ce sont des concepts qui venaient aussi des neurosciences et de la psychologie. Donc il y a un dialogue particulièrement riche dans ce domaine-là entre neurosciences et intelligence artificielle.
Mehdi Kamassi, j'aimerais à présent qu'on en vienne à ce qui peut affecter, troubler la prise de décision. Les recherches en neurosciences, finalement, elles fonctionnent souvent par une étude de ce qui manque, d'un déficit pour éclairer le fonctionnement normal du cerveau. Est-ce que aujourd'hui, on connaît de nombreuses pathologies neurologiques, cérébrales, qui vont affecter cette prise de décision? Et si oui, quelles seraient-elles les principales?
Il y a pas mal de situations différentes dans lesquelles la prise de décision semble troublée. Alors, il y a des situations pathologiques. Pour prendre un exemple lié à la récompense dont parlait Claire juste avant, dans la maladie de Parkinson, dans lequel on a un déficit de dopamine, donc un neuromodulateur qui vient moduler la plasticité cérébrale, eh ben, on se rend compte que les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson apprennent moins bien de leurs erreurs. Donc, du coup, peuvent répéter une décision qui amène à quelque chose qui ne leur convient pas, qui serait considéré comme une erreur. Donc ça, c'est un exemple de trouble. Et justement, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, aux modèles mathématiques qu'on en déduit, on peut essayer de rendre compte de ce trouble, de le quantifier et de proposer une compensation pharmacologique ou de proposer une façon d'essayer de restaurer une meilleure prise de décision. Maintenant, il y a aussi des situations non pathologiques. Par exemple, des troubles de la motivation, on en a parlé un petit peu avant, comme l'apathie, qui correspond à une diminution pathologique de la motivation et qui pourrait être conceptualisée comme un trouble de la prise de décision où la valeur subjective de toutes les options semble similaire ou bruité de telle sorte qu'aucune action n'est entreprise. Donc vous voyez, il y a différentes façons de voir les troubles de la prise de décision.
Claire Sergent, est-ce que vous voyez d'autres types de troubles ou de pathologies? Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène finalement à penser même des moyens de soigner ces absences de prise de décision et d'essayer de compenser voilà, ce que provoquent ces maladies-là, de ce côté-là du choix.
Oui, oui, tout à fait. Donc pour compléter ce qu'a évoqué Mehdi, on peut parler aussi... donc là, Mehdi évoquait l'aspect émotionnel et motivationnel, et puis on peut regarder ce qui se passe quand le versant plutôt exécutif, contrôle exécutif est affecté, c'est-à-dire une espèce de désorganisation. Je veux faire un gâteau, mais je ne sais pas dans quel ordre je dois exécuter les actions et ça m'empêche de réaliser mes actions. Donc ça, c'est un autre pendant des troubles qui peuvent être associés à la décision. Et le fait d'être capable de comprendre comment le cerveau articule ces différents éléments, bien sûr, nous informe sur comment cibler la réadaptation des patients qui peuvent souffrir de ce genre de troubles.
Et alors, du cadre finalement pathologique, quels autres types d'observations on va pouvoir conduire, là, pour le coup, pour étudier encore plus finement notre prise de décision? En dehors d'un cadre pathologique, voilà. Par exemple, si aujourd'hui on devait définir les principaux enjeux qui sont liés à cette étude de la prise de décision, au laboratoire, en recherche fondamentale, quels vont être ces enjeux-là et ces travaux de recherche-là?
Alors, je vais vous parler pour ma paroisse. Moi, une question qui me passionne, c'est une question qu'on a déjà un peu évoquée, c'est quelle est la part des biais inconscients ou des représentations inconscientes dans nos décisions, rapides ou à plus long terme. On sait déjà que les décisions les plus rapides vont être celles qui vont être le plus massivement influencées par des automatismes, ce qui est déjà en place et qui fonctionne extrêmement bien, mais qui va prendre des raccourcis qui sont peut-être un peu idiots. Par exemple, je suis devant le rayon des pâtes. J'ai besoin de pâtes, mais j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Donc, je vais pas forcément choisir la meilleure qualité au meilleur prix, mais je vais prendre celui qui m'est le plus familier. Donc, ça, c'est un des exemples de biais. Donc, la décision rapide va être fortement influencé par des facteurs automatiques et donc probablement non conscients. Et les décisions plus lentes, on pense qu'elles vont faire l'objet de délibérations et donc de plus de prise de conscience des éléments qui pèsent. Mais il y a sûrement également, même dans ces décisions-là, des aspects qui échappent à l'explicite. Et d'ailleurs, parfois, on va dire... même si on est en train de délibérer, je le sentais comme ça.
Mmh. Mehdi Kamassi, c'est vraiment passionnant cette question finalement de la conscience ou non qui préside à une prise de décision, parce que ça me ramène finalement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la théorie de l'économie comportementale, une théorie qui a abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui des nudges, donc des outils, des aménagements publics qui vont inciter à un choix sans le contraindre, ils vont l'inciter en douceur. Nudge, je crois qu'en anglais ça veut dire coup de coude, donc ouais. C'est vraiment voilà une façon d'orienter les gens. Ça peut être tout bête, hein. Ça peut être un fléchage au sol, des encouragements sur des marches d'un métro pour que les gens prennent les escaliers et plutôt que les escalators. Voilà, c'est des choses toutes simples. Ça me pose la question finalement de ce que les neurosciences font à ces politiques publiques, et éventuellement dans une période où on parle de neuromarketing, de guerre cognitive, où les réseaux sociaux finalement nous enferment dans des bulles cognitives, ça me pose la question inquiète de savoir si ces développements dans les neurosciences ne sont pas en train de nous conduire vers un monde où nos décisions seront de plus en plus contrôlées.
Vous voyez, en plus, on peut boucler la boucle avec le départ de l'émission sur la philosophie et Aristote et les questions d'éthique. À partir de ces connaissances sur les mécanismes neurobiologiques de la prise de décision, quels sont les usages qu'on peut faire, des bons usages ou des mauvais usages pour la société? Et si vous voulez, plein de ces connaissances scientifiques viennent innerver différentes strates de la société pour en faire quelque chose. Alors quand c'est pour des politiques publiques, et même si on n'en a pas forcément conscience, s'il s'agit d'inciter les gens à payer leurs impôts en temps et en heure, on pourrait se dire, bon ben pourquoi pas, c'est d'utilité publique. Et en même temps, pas mal de ces connaissances sont utilisées pour des intérêts privés, pour nous inciter à consommer. Donc, vous voyez, il y a des exemples très connus où au lieu de montrer deux options, par exemple un petit paquet de pop-corn pas très cher, un gros paquet de pop-corn plus cher mais avec un meilleur rapport qualité-prix, bon, vous avez une certaine probabilité de choisir le gros, mais peut-être pas suffisamment souvent pour le vendeur. Mais si je vous présente un paquet de taille intermédiaire entre les deux qui a un mauvais rapport qualité-prix, bah ça a tendance, automatiquement, vous n'en avez pas conscience, à vous pousser à choisir le plus gros. Et donc, quelque part, il y a une asymétrie dans l'utilisation de ces connaissances pour nous influencer, jouer sur nos automatismes. Et on pourrait se dire, si on veut que les choses fonctionnent bien, que la société fonctionne bien, qu'il y ait un bien-être, qu'on soit content de nos décisions, qu'on puisse les assumer, ben, je pense qu'il y a toute une part d'éducation où on doit aussi être toutes et tous mieux informés de nos biais psychologiques pour pouvoir être conscients de ces influences et décider si elles nous conviennent ou pas. Ça, c'est notre propre décision. Mais en tout cas, être plus éduqué et avoir plus d'esprit critique.
Claire Sergent, loin de moi à nouveau l'idée de dire que c'est les sciences le problème, mais c'est important aussi de rappeler que cette connaissance qui est accessible à tout le monde, elle tombe parfois aussi entre des mains de personnes qui vont avoir des intérêts qui sont pas forcément ceux du bien commun. Voilà, sur cette question-là de cette manipulation potentielle de nos décisions, jusqu'où on peut aller finalement à partir de ces connaissances-là?
Oui, comme l'évoquait Mehdi Kamassi, il y a des techniques qui sont maintenant connues, assez efficaces pour orienter les choix des consommateurs. On peut même se demander si c'est éthique d'orienter les choix des gens vers la bonne décision, prendre les marches sans qu'ils en prennent conscience. C'est aussi un débat qu'on doit avoir. Et donc, comme toute science, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est-à-dire elle va apporter des problèmes et des solutions. Je pense que les aspects qui peuvent relever d'aider des pathologies démontrent que c'est quand même intéressant d'aller dans cette direction-là. Mais en même temps, c'est tout l'intérêt de faire ce genre d'émission, c'est-à-dire que certes, nous sommes déjà manipulés par des nudges, mais on est au courant.
On est au courant grâce à vous, et puis vous viendrez nous expliquer pourquoi on n'arrive toujours pas à faire les bonnes décisions en matière de changement climatique. Ça, c'est un plus vaste sujet. Merci beaucoup à tous les deux, Claire Sergent, Mehdi Kamassi, de nous avoir éclairé sur la fabrique de nos choix. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo et la chronique Avec Science. Aujourd'hui, il est question de robotique bio-inspirée.
Comment comment un robot mime les fourmis pour retrouver efficacement son chemin. C'est ce qu'on appelle la robotique bio-inspirée. S'inspirer du vivant pour construire des robots plus efficaces et plus sobres énergétiquement. On s'inspire par exemple des poissons pour concevoir des robots sous-marins, des oiseaux pour créer des drones aux ailes battantes ou encore des serpents pour explorer les décombres. Mais cette fois, ce sont les fourmis qui ont inspiré des scientifiques marseillais, notamment pour leur manière de se repérer dans l'espace. Habituellement, ces insectes retrouvent leur chemin grâce à des signaux chimiques laissés par leurs congénères, mais à cause de l'environnement très sec dans lequel elle vit, une fourmi andalouse a mis au point une autre stratégie. Franck Ruffier est directeur de recherche CNRS au LabStick, le laboratoire des sciences et techniques de l'information, de la communication et de la connaissance à Brest.
Alors, ce qui est intéressant avec la fourmi andalouse, en fait, c'est que son comportement n'est pas du tout drivé par les phéromones. Alors que les autres fourmis, leur comportement dépend aussi des phéromones. La fourmi cataglyphis, et notamment celle andalouse, qui vit en milieu semi-aride, elle dépend pas absolument des phéromones donnés par ses congénères. Car les phéromones, en fait, s'évaporent très vite dans cet environnement qui est, somme toute, aride. Et du coup, ces phéromones ne restent pas, en fait, sur les chemins. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les fourmis utilisent la vision. Et les corps pédonculés, c'est des ganglions neuronaux qui sont présents dans le cerveau de l'insecte, sur la partie supérieure du cerveau, en fait. C'est la zone mémoire des chemins visuels que la fourmi apprend. La fourmi apprend et accumule dans ses corps pédonculés, en fait, l'information du chemin visuel.
Ces fourmis andalouses du genre cataglyphie font partie des espèces qui se repèrent uniquement grâce à leur vision, mais une vision très particulière. Elles ne perçoivent que les contrastes visuels qu'elles mémorisent pour retrouver leur chemin. Ce principe inspire aujourd'hui donc la robotique. En utilisant seulement les contrastes perçus dans les panoramas successifs, il devient possible de concevoir des robots très économes en énergie, car une image à très basse résolution suffit. C'est ce que démontre le robot Antkar dans une nouvelle étude parue dans Nature Communications. Ce robot ne ressemble pas à une fourmi, mais à une petite voiture de 24 cm de long par 13 de large. Elle est dotée de 4 roues et d'une caméra panoramique pointée vers le ciel qui voit sur 220 degrés, ce qui permet de capter sous la ligne d'horizon. L'objectif est de contourner un bâtiment, un trajet en forme de L d'environ 50 mètres. Les scientifiques ont d'abord appris à ce robot à le faire une première fois avec les manettes. C'est là qu'il mémorise les contrastes de son environnement, puis il a dû le faire tout seul. Résultat, le petit robot a reproduit le trajet, dans un sens comme dans l'autre, après un seul apprentissage et seulement avec sa minuscule mémoire.
Ce qui est clé ici, c'est qu'on utilise une vision qui est très inspirée de la fourmi, donc à très basse résolution. Donc, par exemple, à la fin, les contrastes qu'on recherche sur l'image, on les recherche seulement sur une image de 800 pixels au maximum. Et c'est en faisant ce travail à basse résolution et en regardant les contrastes les plus saillants dans cette image de la très basse résolution, qu'on arrive finalement à diminuer, on va dire, l'information et en garder seulement l'information la plus importante pour reconnaître un environnement. Ce qui est assez incroyable, c'est quand même qu'à la fin, ce qu'on mémorise, c'est seulement 15 000 0 ou 1. Donc, quand on mémorise seulement 15 000 0 ou 1, c'est pas tout le film, si vous voulez, des images du chemin appris. 15 001, c'est rien du tout en termes de mémoire. Rien qu'une image que vous prenez en photo sur votre téléphone portable qui n'est même pas panoramique, peut-être 3 millions de pixels ou peut-être 10 millions de pixels. 10 millions de pixels, c'est 160 millions 001. Donc 160 millions 01 à comparer à 15 001, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence, quoi. C'est à peine un email qu'on envoie à un ami.
Quand on pense robot, on pense forcément application. Par exemple, les drones ou robots de livraison, déjà en fonctionnement à Montpellier, empruntent souvent les mêmes trajets, mais doivent recalculer à chaque fois leur trajectoire, ce qui représente une dépense d'énergie inutile. Avec un apprentissage inspiré des fourmis, basé sur les contrastes visuels stables de l'environnement, comme les bâtiments ou les arbres, le robot pourrait simplement reconnaître le paysage sans avoir à mettre sans cesse sa mémoire à jour. Mais au-delà des applications purement technologiques, ces modèles bio-inspirés deviennent aussi des outils pour la recherche en éthologie. En reproduisant le comportement des fourmis dans un robot comme Antkar, les scientifiques peuvent tester leurs hypothèses sur la façon dont ces insectes apprennent, mémorisent les paysages et optimisent leur trajet au fil des allers-retours.
Merci beaucoup Alexandra Delbo. On vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de La Science CQFD, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Noé Chabanne. Vous pouvez réécouter notre émission sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans La Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.